Voilà, donc je vais vous dire un peu du point de vue du. En fait, je suis psychanalyste, mais j'ai pas mal travaillé sur des questions interdisciplinaires. La question de l'autorité, au fond, c'est un peu abordé. Ça peut être abordé de manière interdisciplinaire. C'est vrai qu'au collège des Bernardins, on avait l'habitude de. Enfin, c'est même la manière dont les Bernardins fonctionnent. C'est les séminaires de recherche sont autour de questions dans lesquelles on fait croiser plusieurs disciplines. C'est jamais monodisciplinaire. Donc, avoir des psychologues, des psychanalystes, des sociologues, des philosophes, des théologiens, hein, qui travaillent sur un thème. Alors, l'autorité, c'est un thème qui peut ramasser justement un certain nombre de questionnements, et puis dans différents champs. On peut par exemple se poser la question de savoir qu'est-ce que l'autorité de la science aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une autorité de la science? Est-ce qu'il y a une autorité du discours scientifique? Est-ce qu'il y a une autorité de l'université? Alors là, on est dans un champ qui est plus sociologique. Mais donc, et puis alors, il y a l'autorité aussi, c'est une question qui peut intéresser le théologien, parce que tout l'aspect ecclésiologique. Alors, je vais en parler quand même un peu du point de vue du psychanalyste, mais donc l'autorité que nous avons en tant que sujet, nous n'avons pas, notamment en tant que parents, hein, puisque ces questions-là vous intéressez aux questions de l'éducation. Mais je crois que cette question de l'autorité déborde le problème éducatif. C'est-à-dire pourquoi l'autorité émerge aujourd'hui d'une manière un peu particulière. Il y a un questionnement autour de l'autorité. Alors, je ne sais pas si vous avez lu sur ces questions-là, voilà, je pourrais vous envoyer un de mes articles là-dessus. Hein, mais bon, c'est comme vous voulez. Alors, pourquoi ces questions? Alors, je vais donner d'abord des éléments généraux sur qu'est-ce qui pose question aujourd'hui à travers l'autorité. Et puis, je viendrai ensuite sur, au fond, qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière plus concrète à comment, je vais dire, comment remédier, je sais pas, enfin, comment remédier si on considère qu'il faut toujours de l'autorité. Hein, mais, ah bien, par exemple, la victoire de Fillon pour les primaires de la droite, on voit bien que cette question de l'autorité de l'État. Une certaine rapport à l'autorité en politique, car on sent bien que ça jouait dans la manière dont il a été perçu, même si c'est un homme très discret. Donc on sent bien que c'est un thème auquel les gens sont sensibles aujourd'hui. Alors c'est un débat qui est très surdéterminé, qui est très, très idéologique, parce que le débat lui-même est idéologique. Hein. Alors je peux commencer en vous citant une phrase d'Hannah Arendt, qui est souvent citée hein, quand on parle d'autorité, parce que là. Elle a fait dans son livre qu'il y a une partie de la crise de la culture, qui est un livre qui date de 58, où elle évoque la question de l'autorité. Hein, qu'est-ce que l'autorité? Et elle déplore justement la faillite de l'autorité, déjà donc dans les années 50-60. Elle est déjà. Alors, mais il faut dire que les États-Unis sont toujours en avance sur nous, dans beaucoup de domaines, peut-être même dans les pires aussi. Hein, donc, au fond, elle disait, l'autorité a disparu du monde moderne. L'autorité a disparu. Alors elle a beaucoup étudié l'autorité dans le cadre de ce qui se passait du côté des Romains, hein, de l'Antiquité. L'autorité de la tradition, hein, qui au fond, dans le monde romain, l'autorité de la tradition, c'était très important. L'autorité était léguée par le temps. Bien, et il y a tout un débat autour de l'autorité. Hein, au fond, est-ce que les gens qui reviennent à cette question, qui disent, au fond, l'autorité a disparu, alors elle le dit en le déplorant, d'arrêter, hein, puisqu'elle parle de la crise de la culture. Elle parle aussi, elle a une parole très forte, elle dit la perte des assises du monde. Boum. Vous voyez, donc, c'est le sentiment que. Alors là aussi, elle se fonde sur ce qui pouvait se dire pour les Romains par rapport à l'autorité, c'est une assise qui est liée au temps, à l'autorité du passé, hein, dans le monde romain. C'est le passé qui donne une assise de l'autorité. Donc il y a une certaine forme d'autorité qui est en train de disparaître. Je dirais l'autorité de la tradition. On ne peut pas dire qu'on est dans un rapport où la tradition fait autorité. En tout cas, pas d'une manière simple aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, je veux dire. Hein. Du religieux, hein, de la loi. L'autorité de la loi, est-ce qu'on y pense de la même manière qu'auparavant? De même que l'autorité de l'âge et de l'expérience. Est-ce qu'on peut dire. Alors, en tout cas, on n'en parle pas, même si elle existe. Si on parle des présidentielles, c'est bien évident que quand même, c'est les plus âgés qui. Enfin, certains parmi les plus âgés sont là. Hein. Pour reprendre l'exemple de Fillon, il est en politique depuis les années 80. Il est en politique depuis longtemps. Donc, il y a peut-être encore une autorité de l'âge ou de la tradition, mais elle est plus nommée en tant que telle, elle est plus souhaitée en tant que telle. Puis, en revanche, si c'est ce type d'autorité, disons, plus explicite, on parle aussi beaucoup de l'autorité de l'État, est en train de se... est devenu plus incertain, puisqu'on parle du type d'autorité, d'autres autorités... Alors, j'emploie un mot un peu d'une manière abusive, d'autres autorités sont en train d'émerger. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde sans autorité, mais d'autres autorités émergent. Par exemple, l'autorité de l'opinion. Qu'est-ce qui fait que le pauvre François Hollande a été aussi à la merci de l'opinion, hein, et puis des mauvais sondages, hein, au point de ne pas se représenter. C'est une autorité très forte. Hein. Peut-être qu'il y a une trentaine d'années, un président de la République se serait quand même représenté, même s'il avait eu de mauvais sondages. Ah, vous voyez, l'autorité des sondages, hein, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. L'autorité des pères aussi, pas IRS, hein, pour les adolescents. C'est un nouveau type d'autorité, hein, qui n'est pas une autorité hiérarchique pyramidale, mais une autorité quand même qui est présente, hein, qui est présente, hein, qui est forte, hein, au point qu'Hannah Arendt parlait, pour les jeunes, pour les adolescents, elle disait de tyrannie de la majorité. Et au fond, qu'un jeune adolescent, ou un adolescent moins jeune, était pris dans l'autorité de ses collatéraux d'une manière très forte. Alors, dans le monde américain des années 50, hein, vous voyez déjà. Et en revanche, l'autorité des parents était plus complexe. Vous voyez, donc il y a d'autres autorités qui émergent. Mais est-ce qu'on peut. Alors, c'est une énigme assez angoissante qui, évidemment, inquiète les parents, puis toutes les personnes qui sont dans le registre de l'éducation, les futurs enseignants ici. C'est des choses qui sont... Il m'arrive d'avoir des jeunes enseignants en thérapie, hein, qui me disent, mais au fond, est-ce que mon autorité est légitime ? De quoi ou de qui je tiens cette autorité ? Ou est-ce qu'elle tient par elle-même ? Là, donc il y a une vraie inquiétude, dont on sent d'ailleurs que cette inquiétude tient au changement. C'est-à-dire, vous voyez, quand on passe de l'autorité verticale à quelque chose de plus horizontal, on est dans un changement profond. Alors, est-ce qu'on est d'ailleurs toujours dans une autorité ? C'est la question que je pose. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu de quoi est fait ce changement. Alors, on est... D'abord, est-ce qu'on est toujours dans l'autorité ? Alors, si je prends l'exemple de Max Weber, pour ceux d'entre vous, c'est un des penseurs, sociologues, donc, allemand, qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'autorité, notamment dans plusieurs de ses livres, hein, ce thème de l'autorité était présent, hein, notamment dans son livre Économie et Société, qui est en plusieurs tomes. Lui, il n'emploie pas ça a été traduit en termes d'autorité, c'est le terme qu'il emploie en allemand, alors je ne suis pas germaniste, c'est le terme Herrschaft, qui est plutôt, qu'on pourrait traduire plutôt comme domination, hein, que comme autorité en français. Un point de domination, donc c'est un terme plus général, moins spécifié que l'autorité, mais qui spécifie aussi quelque chose qui s'impose par soi-même, la domination, et qui n'a, à la limite, qui n'a pas besoin de légitimité. Et lui, dans ses écrits, alors Weber essaie de voir un peu qu'est-ce qui fait autorité. Parce que c'est ça notre question, qu'est-ce qui fait autorité ? Qu'est-ce qui fait que l'autorité fait autorité ? J'allais dire, qu'est-ce qui la légitime à l'autorité ? Parce que le problème de l'autorité, c'est la légitimation de l'autorité. Et au fond, alors il fait toute une typologie des autorités, c'est la référence quand on veut parler de l'autorité, Weber. Pour ceux d'entre vous, il y a des philosophes parmi vous, il y a une autre, alors une référence plus hegelienne, vous lisez un tout petit bouquin qui est bien fait d'Alexandre Kojève, hein, sur la question de l'autorité, qui est remarquable, mais qui n'est pas le versant sociologique, on est plus dans une étude philosophique. Alors, il évoque donc cette domination qu'on a traduit par autorité, et il l'oppose, il dit au fond, ça, il faut qu'il y ait quelque chose de conscient. Hein, quand on est face à une Herrschaft, à une domination, et puis il fait une typologie de ces dominations, il dit, on obéit d'une manière consciente. C'est-à-dire que la domination, au fond, d'une certaine manière, donne envie qu'on lui obéisse. On n'est pas dans un asservissement. Hein. Vous avez un chef politique auquel vous avez envie d'obéir, de Gaulle ou que sais-je, on cite beaucoup de Gaulle ou Churchill en ce moment, c'est des hommes politiques auxquels on a envie d'obéir d'une certaine manière parce qu'ils s'imposent, ils font autorité, ils ont une parole forte et ils s'engagent eux-mêmes dans la parole qu'ils ont. Et puis, dit ça, c'est l'autorité, il y a des autorités, et puis il y a ce qu'il appelle, ce qui a été traduit par influence. Il dit au fond, il y a aussi les influences, mais les influences, ce n'est pas des autorités. les influences. C'est des choses plus implicites, plus complexes. Alors on pourrait dire, dans une première lecture, que ce que j'ai évoqué quand je parlais de l'autorité de l'opinion, l'autorité des pairs, IRS, on est plutôt du côté des influences, c'est-à-dire des autorités plus implicites, dont la légitimité n'est pas claire, en tout cas n'est pas clairement définie, mais qui quand même ont une forme de pouvoir sur les personnes. Donc on voit bien qu'il y a deux registres, et que le glissement qui s'opère aujourd'hui, c'est entre un registre plus explicite, mais aussi plus hiérarchique, plus lié à une société où il y a un dénivellement entre les acteurs de l'autorité, entre celui qui exerce l'autorité et celui sur laquelle il s'exerce, à une société plus, qui est plus une société des égaux, à UX, mais peut-être O, on peut dire aussi des égaux dans ce sens-là, et où le dénivellement existe moins, et où donc les autorités s'exercent plus à l'horizontale, et on est plutôt dans le registre des influences. C'est un premier élément qu'on peut dire. Alors, ces sources d'influence, ces puissances aussi, on peut employer plusieurs mots, qui existent, elles peuvent venir d'espaces classiques de l'autorité, mais d'autres espaces aussi. Par l'Internet, par exemple, c'est un espace qui fait ce qui peut se passer sur Twitter. Donald Trump, par exemple, communique uniquement par Twitter, au lieu de passer par d'autres canaux. On voit bien que là, il y a quelque chose qui se joue dans un espace différent, dans une manière de fonctionner différente. Il s'adresse directement au peuple, aux gens, par le biais de Twitter, et pas par les canaux, par les médiations habituelles, pour faire autorité. Alors, on voit bien que cette levée des influences, c'est pas seulement des questions politiques générales ou des grandes questions sur les théories de l'État, c'est quand même des questions qui se jouent pour nous dans la vie concrète. Comment on fait quand on est prof ? Comment on fait quand on est parent, par rapport à un registre où, au fond, l'autorité en elle-même qui se veut légitime, qui doit être légitimée, ne fonctionne pas toujours, surtout quand on est dans des situations où, de fait, on a un dénivellement, enfin, on est une situation d'autorité, comme un prof, les choses, on devrait se sentir légitime, dans certains cas, où la légitimité est moins évidente, et puis où il y a tout ce réseau d'influence, plus ou moins explicite, plus ou moins nommée. Donc là, il y a une question très profonde, et puis avec une... si ça existe comme ça, c'est que ça reprend un certain nombre de nécessités, de questions sociales très fortes. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'on n'est plus dans la fin de l'autorité ou des autorités, mais on est plutôt dans la concurrence des autorités. Plus la concurrence des autorités ou dans la concurrence des influences. On peut dire aussi de la même chose pour l'éthique. On n'est pas dans un monde qui est dans une absence d'éthique. Au contraire, on est dans un monde très, très éthique, très moral. On est plutôt dans une concurrence. Je me souviens d'une phrase qu'avait dit une fois Monseigneur Bourget, il intervenait sur le magistère catholique. Il disait, au fond, on n'est pas dans une absence de magistère aujourd'hui, on est dans une prolifération des magistères. Donc, vous voyez, la question de l'autorité se pose aussi dans cette complexité contemporaine. Qu'est-ce qui va faire autorité ? Quand vous êtes universitaire, une partie d'entre vous seront peut-être universitaires. Quand vous donnez une parole qui se veut scientifique, qui vient de l'université, quand vous avez une concurrence des lieux qui produisent du savoir, par exemple des ONG, des think tanks, et qui diront, mais nous, on produit du savoir qui est beaucoup mieux que le savoir de l'université, qui fonctionne, au fond... Méfiez-vous du savoir qui vient de l'université, parce que ce savoir-là, d'abord, il est estampillé par l'État. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pas faux ? Il ne faut pas s'en méfier d'une certaine manière. Et puis, au fond, un savoir qui serait dispensé dans d'autres lieux est peut-être plus légitime, d'une certaine manière, comme ce qu'on peut aller chercher sur Internet ou ailleurs. Quand vous aurez des étudiants, vous poserez la question de savoir comment leur faire comprendre que quand on va chercher des infos dans divers lieux, par exemple sur le web, il faut essayer d'avoir une méthodologie pour vérifier les sources, voir si quelles valeurs ont les sources qu'on va trouver, etc. Comment hiérarchiser les savoirs ? Parce qu'au fond, un certain nombre de savoirs qu'on peut, d'informations plutôt qu'on peut avoir ici ou là, sont des informations qu'on considère a priori au même niveau que celles qu'on trouve dans d'autres lieux. Alors c'est vraiment la question qui est posée, c'est au fond, parmi toutes ces influences, qu'est-ce qui fait vraiment autorité? Alors ça, ça pose, moi ce qui m'intéresse effectivement, c'est cette concurrence des légitimités, avec des légitimités explicites qui étaient celles d'auparavant, et des légitimités plus implicites aujourd'hui, et qui au fond sont elles-mêmes en concurrence. Si on peut dire les choses très rapidement, au fond, une autorité, c'est un pouvoir plus une légitimité. Si on peut donner une définition rapide d'autorité, un pouvoir, on peut exercer un pouvoir uniquement par la force. Quand vous êtes plus fort qu'un autre, vous pouvez très bien forcer quelqu'un à faire ce que vous avez envie qu'il fasse en étant plus fort que lui ou qu'elle. Et donc là, il y a un pouvoir, ce qui fait qui permet d'obtenir ce qu'on veut parfois, par exemple par la force. Mais ce que dit Weber par rapport à l'autorité n'est pas le pouvoir. L'autorité donne envie qu'on lui obéisse. Donc on n'a pas besoin d'utiliser, à la limite, l'autorité quand elle use de la force n'est plus une autorité. Pour qu'il y ait une autorité, il faut qu'on n'arrive pas à ce moment où on utilise la force. Donc c'est la légitimité qui donne cet augmentatif à l'autorité. Ça c'est un truc qui est classiquement dit, dans autorité il y a hauteur. Donc il y a cette idée d'autoritas, cette idée d'un augmentatif qui fait que ce pouvoir qui ne serait qu'un pouvoir devient plus qu'un pouvoir parce qu'il y a cet augmentatif qui lui permet de s'imposer par elle-même, en tout cas par elle-même d'une manière mystérieuse, et qui fait qu'on a envie de lui obéir. On a envie d'obéir à cette autorité. Donc c'est ce pouvoir plus cette légitimité qui permet au pouvoir d'exister dans le monde commun et d'avoir un effet. Alors l'idée, au fond, c'est... Au fond, la crise qu'on a, c'est la crise de la légitimité. C'est-à-dire, cette idée, mais au fond, dans cette concurrence générale des autorités ou des influences, c'était que de plus en plus de gens ne se sentent pas, d'abord, envie de dire qu'ils utilisent l'autorité, parce que ce terme d'autorité est bien moins bien vu, et ensuite de savoir comment, de quelle légitimité ils ont. Vous voyez des parents, il m'arrive de voir des parents qui me disent... Mais moi, je suis autoritaire. Surtout pas. Enfin, c'est la première chose qu'ils disent, de surtout pas être autoritaire, parce qu'il y a cette vision de l'autoritarisme. Mais je crois qu'il y a aussi cette difficulté à habiter, cet habit de l'autorité, et souvent l'idée que beaucoup de gens ont de dire mais de quel droit je peux dire à mon fils, à ma fille. Voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas te brosser les dents, que sais-je. Alors, on parle des actes de la vie quotidienne, mais même dans les actes, vous avez des gens qui, même dans les actes de la vie quotidienne, sont en train de négocier constamment avec leurs enfants. Alors oui, d'abord en expliquant. Alors, il y a une espèce de rhétorique de l'explication, qu'on réexplique 50 fois au gamin qui doit se laver les dents parce que c'est très bien contre les microbes, etc., etc. Mais il y a... où, au fond, l'acte d'autorité par lui-même n'est pas pensable. C'est-à-dire on est toujours dans quelque chose de la négociation ou de l'explication. Où les gens ont du mal à habiter cet acte-là. Alors, ça paraît amusant, mais vous rencontrez des parents qui, parfois, sont même dans l'incapacité d'être, sans aller jusqu'à un acte d'autorité, dans l'incapacité d'être même un objet de résistance vis-à-vis de leur ado. Et de pouvoir simplement résister au désir. Cet enfant qui, évidemment, quand on est adolescent, on a plein de désirs. Moi, il m'est arrivé, par exemple, je cite cet exemple, de voir un jeune de 15 ans avec ses parents, les terrorisant complètement, distribuant la parole. Venant me voir avec ses parents, il disait, pardon, toi, papa, tu ne parles pas. Et les parents complètement terrorisés, c'était des gens tout à fait bien éduqués, mais qui étaient terrorisés par cet ado qui distribuait la parole. Alors moi, je lui dis, écoute, tu fais peut-être ça chez toi, mais c'est moi qui donne la parole, c'est pas toi. Mais ses parents étaient complètement terrorisés. Ils ne pouvaient même pas lui résister. Alors que le père était baraqué, n'était pas du tout faible. Mais il n'y avait pas une force physique ou un truc comme ça. Il y avait simplement une angoisse très forte vis-à-vis de fait, du fait de pouvoir exister devant le jeune. Alors c'est un exemple un peu extrême, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ce n'était pas un jeune délinquant, ce n'était pas un type qui faisait... Voilà, il faisait simplement, il terrorisait sa famille, quoi, mais en dehors de ça... en dehors de ça, il dealait pas du cannabis au coin de la rue, il était plutôt un élève correct, il n'y avait pas de problème majeur en termes sociaux. Il n'aurait pas, pas été placé par la DAS, vous voyez. Mais on sentait qu'ils étaient complètement... Alors ça, c'est un phénomène nouveau. Autre exemple, vous rencontrez plus d'adolescents qui sont écrasés par leur père. Alors ça, c'était le modèle classique des temps freudiens, des temps victoriens, disons. Hein, le jeune adulte ou la jeune adulte avec un père écrasant. Enfin, vous lisez Lettre au père de Kafka. Vous voyez, c'est une espèce de truc hallucinant où il était complètement écrasé par son père. Alors rassurez-vous, ça n'existe plus. Le dernier que j'ai vu, il était turc, je crois. Donc, vous voyez bien, effectivement, dans certaines cultures, ça existe encore. Mais dans notre culture, c'est quand même beaucoup plus rare, même si ça arrive parfois aussi. Vous voyez, donc, cette espèce de difficulté à être dans un dénivelé pour les parents, hein, mais pour des enseignants, etc. Des enseignants qui me disent, mais d'où vient mon autorité? De quel droit je peux dire ça? Alors, il faut dire aussi, alors je ne dis pas ça pour me moquer, il faut dire aussi, le contexte le plus important de tout ça, c'est, je dirais, c'est un contexte de subjectivation, c'est-à-dire comment on est sujet de l'autorité, comment on devient sujet de l'autorité, dans une société qui est beaucoup moins soutenante et contenante, c'est-à-dire qu'il y a encore 30, 40 ou 50 ans, quand on était dans une position d'autorité, on était contenu par tout un psychisme collectif qui nous entourait et nous accompagnait sans qu'on le sache. C'est comme disait une fois un pasteur, il me disait, c'était une pasteur qui me disait, maintenant quand on prend la parole devant une assemblée, c'est jamais gagné. Il y a une espèce de sentiment que la fonction qu'on a ne donne pas en soi une légitimité. Alors parfois, ça donne une légitimité. Dire de grosses bêtises, ça ne posait aucun problème. C'est-à-dire, au fond, un père complètement abusif il y a un siècle, ça ne posait pas problème qu'il soit abusif. Maintenant, ça passerait beaucoup moins. Hein, la fonction en elle-même donnait une capacité de se positionner subjectivement. Maintenant, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que vous avez, la fonction en elle-même n'est pas forcément porteuse. Donc, c'est une première question. Donc, il y a une espèce de solitude à porter subjectivement l'autorité dans laquelle on est. Et puis qui est lié à la place des institutions. C'est-à-dire qu'on est... Mais ce que je disais tout à l'heure sur la force de l'État ou la force des institutions, on n'est pas du tout dans une question, je dirais, abstraite, mais dans une vraie réalité. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui sont en position d'autorité... L'enseignant... Je vous cite une petite anecdote. Une jeune enseignante qui arrive... qui revient de congé de maternité. Jeune, elle avait quand même quelques années au compteur. Donc elle est dans un collège dit difficile. Qui se fait insulter par un de ses élèves d'une manière assez violente, par un de ses élèves de quatrième. C'est souvent quatrième qui c'est la classe la plus méchante, parce qu'ils sont en pleine giclée hormonale, donc c'est les plus difficiles. Elle se fait insulter, donc elle l'amène au conseiller, elle va avec le gamin, je crois, au conseiller d'éducation, parce qu'elle voulait qu'il y ait une sanction. Et la conseillère d'éducation dit, alors le gamin nie, non, je ne l'ai pas insulté. La conseillère d'éducation dit, vous dites qu'il vous a insulté, lui il nie, qui dois-je croire? Vous voyez donc comment l'institution, là, n'est absolument pas soutenante. L'institution élimine le dénivelé qui fait cette situation-là. Et alors, sûrement par une forme de démagogie et parce que la, je sais pas si c'était la directrice adjointe ou si c'était le conseiller d'éducation, peu importe, par une forme de manière d'avoir du pouvoir. C'est là qu'on voit que les influences ont une importance, c'est-à-dire que l'adulte qui a cette position de disqualification de l'autre adulte, de le mettre au même niveau que l'élève, de cette manière-là, acquiert un certain pouvoir, une certaine influence en tout cas. Vis-à-vis de l'élève et vis-à-vis des autres élèves, une sorte de pouvoir, de prestige, hein, de choses comme ça. Alors c'est un exemple un peu extrême, mais je crois que c'est un exemple qui concrétise bien toute une série de situations de la vie quotidienne où les personnes sont en situation de gérer par eux-mêmes, de porter par eux-mêmes leur situation d'autorité. Alors, eh bien, pour les parents, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont sans cesse renvoyés à eux-mêmes par le monde commun, par le monde collectif, en disant, ben, si vous ne le faites pas, ben, c'est bien de votre faute, si vous n'y arrivez pas. Mais on le voit bien aussi dans des gens qui sont, par exemple, qui dirigent des établissements. Hein. Je me souviens de ce que me disait une fois quelqu'un qui dirigeait un établissement médico-social. Donc, il s'occupait de personnes en situation de rupture sociale qui venaient dans ce lieu d'hébergement, donc des gens qui étaient en difficulté et qui parfois étaient violents. Et il disait, alors, donc ces établissements, ils ont tous ce qu'on appelle une tutelle. La tutelle, ben, c'est par exemple la DAS. Donc, toute une série d'échelons administratifs auxquels ils doivent rendre compte en cas de problème ou même en général. Et il disait, au fond, dès qu'il y a un problème, je sais que je serai seul, ma tutelle ne me soutiendra jamais. Mais la méthodologie d'ouverture du parapluie aujourd'hui dans les institutions, c'est quelque chose d'extrêmement courant. C'est-à-dire que les institutions ne se considèrent beaucoup moins qu'auparavant comme solidaires de ce que vivent les acteurs de l'institution. Alors c'est un phénomène très complexe, c'est très, très lié à l'individualisme dans le monde occidental, c'est-à-dire qu'à la fois les institutions sont là, et elles ont une forme d'autorité, elles ont même une autorité, ce que Weber appelait l'autorité rationnelle légale, c'est-à-dire qu'il y a toute une autorité administrative extrêmement forte, hein, qu'on voit, et en même temps, il y a beaucoup moins de contenance de ce que vivent les personnes en situation d'autorité. Donc il y a un rapport entre l'individu et le collectif, qui est même quand on est parent, on n'est pas forcément face à d'autres parents quand on administre ses enfants, mais toute une situation qui est extrêmement difficile, où les sujets portent par eux-mêmes à la situation qu'ils sont apportés. Et je veux dire qu'ils sont à la portée, le fait que quand on est parent, on est redevable de ce qui arrive aux enfants. Alors je pense que cette perte des assises du monde qu'évoquait Hannah Arendt, elle correspond effectivement à ce sentiment-là, c'est-à-dire à ce qui se joue aussi pour les acteurs qui ont le sentiment de ne plus avoir d'assises, et notamment d'avoir moins d'assises dans le monde collectif. À comment habiter la légitimité de ma position d'autorité, comment arriver à l'habiter à la première personne. Hein. Je crois qu'il y a cette question de la légitimité et avec le fait beaucoup plus énigmatique, hein, de la manière dont arrive à se mettre en place une légitimité. Quand Hannah Arendt parle de l'autorité des fondateurs, donc au fond César par exemple a une autorité qui dépend de ceux qui en font des Roms, in fine, dans tous les échelons des générations. Concrètement, ils peuvent s'appuyer sur cette autorité de la tradition. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est plus dans ce registre de s'appuyer concrètement sur l'autorité de la tradition. Mais comment s'appuyer chacun, nous appuyons-nous, chacun de nous, pour asseoir notre légitimité? Alors on est beaucoup moins dans une autorité de la tradition, hein, qui était l'autorité classique des institutions. On est beaucoup plus dans ce que Weber appelait une autorité rationnelle légale, qui est justifiée par la règle, par exemple, les règlements européens, ça, cette autorité rationnelle légale, elle est très présente. L'autorité, je dirais, du passé est beaucoup moins présente, donc par exemple celle des générations. Et puis, il y a émerge beaucoup plus que ce que Weber appelait l'autorité du charisme. C'est-à-dire l'autorité du charisme, c'est l'autorité de la personne elle-même. Alors évidemment, le problème du charisme, c'est on en a ou on n'en a pas. C'est-à-dire que quand on en a, il n'y a pas de problème, et quand on n'en a pas, notre fonction ne nous confère pas a priori un charisme. Donc on est dans l'autorité où c'est des personnes charismatiques qui emportent le morceau. Alors Weber ne déniait pas la question de l'autorité charismatique, hein. Il disait, mais c'est très bien l'autorité charismatique, mais il disait, c'est l'autorité à son état naissant. Dans les républiques naissantes, Napoléon par exemple, Napoléon c'était plutôt l'Empire, mais quand quelque chose est en train de naître, l'autorité charismatique, ça a son importance, mais après l'autorité charismatique retombe et devient une autorité de la tradition. Hein. On ne peut pas être tout le temps dans l'autorité charismatique. On ne peut pas être tout le temps charismatique quand on est parent. On ne peut pas tout le temps s'imposer vis-à-vis des enfants par une espèce de puissance. Une puissance de donc la question c'est que ça favorise du coup cette présence très forte de toutes ces influences et cette concurrence des autorités amène comment dire, à laisser la place aux autorités du charisme de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des charismes qui s'imposent, hein, qui s'imposent parfois en peu de temps, puis qui retombent, que ce soit sur le monde d'Internet ou dans d'autres mondes, dans des classes, ça se voit aussi. On le voit dans le monde politique aujourd'hui. Hein, là, il y a la bulle Matteo Renzi qui a éclaté. Bon, il est resté 3 ans, boum, il a éclaté. Vous voyez, on est dans un monde où c'est des autorités qui émergent, qui retombent, et parfois d'une manière... de manière assez rapide, avec évidemment un côté syncopé et une tenue dans le temps qui ne dure pas, effectivement. Au fond, qu'est-ce qui reste quand on est plus surtout dans le registre des influences, plus que dans le registre d'une autorité qui se légitime et qui était légitimée par le monde collectif? Ben, c'est justement ce qui reste, c'est l'autorité même du collectif. Le côté insaisissable, énigmatique, qui fait que le collectif s'impose à l'individu. Alors, quand on est dans un régime où on est beaucoup moins dans un fonctionnement où c'est explicite, c'est nommé, c'est légitimé par des processus qui prennent le temps et qui sont reconnus par tous, mais évidemment, cette autorité du collectif, elle peut être dangereuse, elle peut être douloureuse, elle peut être sauvage. Alors, on voit bien les lynchages sur Internet, parfois, peuvent vivre certains adolescents. Il y a une espèce de puissance du collectif qui se présente, qui n'est pas forcément toujours dans cette espèce d'idéal de la démocratie directe qu'on met beaucoup en scène aujourd'hui. Mais on est parfois dans une espèce de puissance assez, assez redoutable et très destructrice du collectif. Alors parfois, ça se fait d'autres manières, mais souvent, les questions se présentent comme ça. La question, effectivement... Quand on sort d'autorité plus instituée, alors ça supposerait de parler de l'institution, qu'est-ce qui fait, par exemple, que l'autorité des parents est instituée? Qu'est-ce que ça veut dire, institution, hein? Qu'est-ce que c'est qu'une autorité instituée, une autorité légitimée, hein? Merleau-Ponty disait, au fond, ce qui est institué, c'est ce qui nous précède. C'est un sens qui nous précède. Hein? Moi, je constitue le monde qui est en face de moi, d'une certaine manière, en tout cas, j'essaie de le constituer. Mais je suis aussi institué par le monde qui me précède. Et donc, on est dans cette faillite, cette difficulté des autorités instituées. Et donc, effectivement, le problème qui se pose pour nous, puisque je ne veux pas être seulement dans la déploration, hein, c'est comment réinstituer les choses quand on est en position d'acteur, hein, quand on est parent, quand on est éducateur. Qu'est-ce qui fait qu'on peut travailler, en tout cas, on ne va pas réinstituer tout seul, hein, travailler une réinstitution de l'autorité. Voilà. Alors, je vais terminer là-dessus. Je ne sais pas combien de temps il reste. Ah, oh, ben, ça va, j'ai encore un tout petit peu de temps, mais je ne vais pas trop m'attarder. Alors, vous voyez bien ce que j'ai cherché à dire, de dire autorité, influence, explicite, implicite, rapport au collectif, à un collectif qui ne soutient plus d'une manière explicite des personnes qui sont en situation de porter une autorité, mais qui au contraire se manifeste, le collectif qui se manifeste par des influences diverses, parfois hétérogènes, parfois contradictoires, hein, qui sont des effets de puissance, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du pouvoir là-dedans. Il y a un très beau film que je vous conseille, qui en avait passé au Bernardin, qui s'appelle « L'exercice de l'État ». L'exercice de l'État, c'est un superbe film. Alors, je ne me souviens plus du nom du réalisateur, mais ça vaut le coup que vous le passiez. C'est l'histoire d'un ministre dans un pays imaginaire qui pourrait être la France. Mais c'est fait par un Belge, je crois qu'il est belge. Enfin, je ne sais plus. Non, c'est le comédien est belge. Le comédien belge. Et ça raconte l'histoire de quelques journées dans la vie de ce ministre. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont en train de courir après quelque chose qui pourrait être l'autorité et qui n'existe pas vraiment. Et il y a une espèce de sentiment de vide vertigineux quand on voit le film. C'est-à-dire qu'au fond, c'est des gens qui croient. Ils ne les présentent pas comme des imbéciles, au contraire, comme des gens qui sont des bons techniciens, et puis des gens qui, pour certains d'entre eux, croient encore en l'État, quelque part. En tout cas, la légitimité de ce qu'ils exercent, etc. Et puis, on peut s'apercevoir qu'au fond, vous savez ce que disait, c'est Claude Lefort, qui disait, au fond, le pouvoir est un lieu vide, disait-il. Mais là, on est vraiment tout à fait dans une démonstration épouvantable d'idée que ces politiciens occupent un lieu vide et qu'ils ont n'habitent, alors qu'on pourrait dire que l'État, c'est quand même le sommet de l'autorité, n'habitent pas vraiment quelque chose. Au fond, ils sont complètement menés par les événements. À ce qui s'est passé récemment avec Hollande, on a l'impression qu'il ne maîtrise plus rien, d'une certaine manière. Eh bien, ce film-là nous le montre, on nous dit, au fond, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'un politicien et d'un ministre qui essaie de faire son boulot. Parce que le ministre du Transport, à la limite, c'est pas quelqu'un qui va avoir... C'est pas comme le ministre de l'Intérieur, il va pas faire des effets d'annonce sur des choses ultra graves. Il essaie de gérer les transports du pays au jour le jour, quoi. Et on sent bien combien il fait plus que suivre les événements, plus que d'essayer d'avoir une vraie action politique. Donc je crois que c'est vraiment très important de voir comment on peut réhabiter à cette question de l'autorité. Alors je vais donner quelques éléments, puis après comment retrouver ces assises aussi. Alors d'abord, il y a une question de temporalité. C'est-à-dire, je pense, j'ai bien évoqué en disant, bon, au fond, la vision d'Anna Arendt de l'autorité, c'est une vision de l'autorité du passé. Les assises du monde, c'est se réclamer d'une tradition sur laquelle on revient. Alors évidemment, on ne pourra pas revenir à une autorité de la tradition comme elle existait dans l'Ancien Régime. Ça ne serait pas souhaitable et pas supportable. Mais je crois qu'il y a une crise de la temporalité, néanmoins. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus s'asseoir sur une, si je puis dire, sur une temporalité qui pour nous ait du sens. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se recevoir en partie du temps d'avant. Hein. Et même d'une manière beaucoup plus large, de pouvoir se projeter dans le futur. Qu'est-ce qui fait que, au fond, beaucoup de gens, et notamment des parents, mais pas seulement, ont du mal à avoir un récit. Hein. Vous savez, en sciences humaines, maintenant, on aime beaucoup le terme de récit. Hein. En anglais, on parle de narrative. On va faire un récit. Quand on fait de la politique, on fait un récit qu'on propose aux gens. Mais d'arriver à se projeter dans le futur, je crois que cette difficulté à se projeter dans le futur, c'est une vraie défaillance de la temporalité. Je pense que de la temporalité vécue, de la manière dont nous habitons le temps et dont nous cherchons à nous projeter dans le temps. C'est ce que je dis parfois aux parents, je leur dis, si vous attendez un retour sur un investissement, souvent quand on a un ado qui va pas bien du tout et qui rue beaucoup dans les brancards, ça peut durer plusieurs années, ça veut dire pas forcément un an, ça peut durer 5 ans. Je leur ai dit, si vous attendez un retour sur investissement, donc une gratitude, pour dire les choses en termes classiques, on peut dire un retour sur investissement, maintenant, ça ne va pas vous nourrir, parce que vous n'aurez pas tout de suite le retour sur investissement, et quand il y aura un retour sur investissement, vous serez peut-être déjà mort. Donc, ben oui, avec les enfants, on n'a pas forcément un retour sur investissement de notre vivant. Hein. Ça vaut mieux l'espérer, mais si, quand les gens attendent, c'est la question. Le narcissisme le narcissisme est souvent dans le présent. On a du mal, quand on fonctionne dans un registre narcissique, à se projeter dans le futur, à imaginer après, à imaginer même qu'on ne soit pas là. Hein, et je crois qu'il faut pouvoir se projeter, même être parent, quelque part, c'est être dans la position du mort. C'est-à-dire que ce qui sera les enfants rendent, enfin la dette que les enfants peuvent avoir vis-à-vis de leurs parents, ben ils la rendent à leurs propres enfants, c'est pas leurs parents qui la rendent, cette dette là il y a une asymétrie du régime de la dette qui fait que ça se passe pas dans le quotidien. Et il y a une attente très forte aujourd'hui de, mais pourquoi je n'ai pas de gratitude, pourquoi je n'ai pas de retour? Ben de fait, il y en aura peut-être pas, alors, ou bien il y en aura peut-être pas tel qu'on l'attend. Évidemment, le plus souvent c'est ça. Il y a une attente qui ne correspond pas à ce qui arrive. Mais je crois que c'est une manière d'habiter le temps qui est une manière, au fond, où on ne se perçoit plus dans une succession de générations. On ne peut plus se percevoir dans une succession de générations. D'où une moins grande humilité. Je pense que, effectivement, il y a une question subjective. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait que beaucoup de gens portent par eux-mêmes cette question-là. Donc, on ne peut pas porter seul les choses. Moi, je pense que quand on a un enfant qui ne va pas très bien, par exemple, ou qui est très en difficulté, c'est difficile. Alors, parfois, on est obligé parce qu'on est seul de fait. On peut être seul avec un enfant, un parent seul, par exemple. Mais quand on peut, je crois, il faut travailler sur les questions, ce que j'appelle la légitimation croisée de l'autorité. C'est-à-dire qu'une autorité est toujours légitimée par un tiers. On ne peut pas se légitimer par soi-même. sauf si on est un super charismatique, et encore, je pense que ça ne marche pas tout le temps. Même les gens, les personnes les plus charismatiques sont parfois fatiguées. Et donc, je pense qu'il y a une question de légitimation croisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire simplement, par exemple, dans un couple, il faut toujours légitimer le conjoint. Combien de personnes disent « Ah oui, mais je l'ai disqualifié devant les enfants, mais je sais que normalement, c'est pas bien de disqualifier mon conjoint devant les enfants, mais là, c'est vraiment parce que c'est lui, il est vraiment mauvais. Hein? » Vous voyez, donc, je pense qu'il faut... oui, c'est plus souvent les femmes qui disent ça, je suis désolé, hein, mais pour dire que le type est nul comme père, elles sont parfois assez bonnes. Je crois qu'il faut travailler, et alors je dis ça pour les parents, mais c'est vrai aussi pour des enseignants, je crois qu'il y a tout un travail, alors ça peut être vécu aussi au niveau de collectif comme le vôtre, voilà, de collectif d'enseignants, travailler à comment légitimer les autres adultes, comment faire en sorte, quand on est parent, de ne pas dire du mal des enseignants. Je rencontre beaucoup de parents qui disent beaucoup de mal des enseignants. Mon fils, alors le truc classique, c'est mon fils est un génie, les enseignants n'ont jamais compris. Ça, c'est un grand classique. Hein. Mon fils est, comment on appelle ça déjà ? Pas surdoué, maintenant on dit.
Précoce.
Mon fils est précoce. Voilà, mon fils est précoce. Alors vous trouverez des psys, évidemment, parce que c'est un bon filon, hein, d'avoir se spécialiser dans les enfants précoces. Et qui dit, ah oui, mon fils est précoce, mais il est tellement intelligent qu'aucun enseignant n'a compris qu'il était précoce. Tout le monde me dit qu'il est nul, mais il est précoce. Et ça, si vous voulez, alors, c'est très court. Avant, c'était presque le contraire. C'était dramatique dans l'autre sens, en disant, mon fils est nul, et il ne fera jamais rien de sa vie. Ce qui n'était pas mieux, d'une certaine manière. Maintenant, c'est l'excès inverse. C'est mon fils est forcément extraordinaire. Mais la question profonde, c'est la légitimation des autres adultes. Moi, je pense que... Moi, en tant que parent, je n'ai jamais dit du mal des enseignants. Et même quand j'avais l'impression que l'enseignant en question était vraiment nul, je disais, et même s'il est nul, ton enseignant, des nuls, t'en rencontreras d'autres dans ta vie, donc il faut que tu t'habitues. Alors, je force un peu le trait, là, mais vous voyez bien quel l'enjeu du narcissisme. C'est-à-dire qu'à la fois, les personnes sont très seules quand il y a des problèmes vis-à-vis de ces situations-là, et en même temps disqualifie l'autre adulte quand tout semble aller pas trop mal. Et donc il y a tout un travail de requalification de l'autre, mais qui est un travail général. Vous voyez bien comment il y a une disqualification du politique. Il y a quelque chose, quelque chose de très profond dans notre monde, cette disqualification des autres acteurs, et cette espèce de concurrence narcissique au fond. Hein, qui est extrêmement forte, hein, alors que moi je pense que, par exemple, pour les politiques, on a les politiques qu'on mérite, hein, qui ne sont pas pires ni mieux que nous. Et donc, s'il n'y en a pas de De Gaulle, c'est qu'il n'y a pas de De Gaulle parmi nous, hein, voilà. Sinon on aurait un De Gaulle. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ce serait bien qu'on ait un De Gaulle, mais voilà. Vous voyez, donc ce tissage-là, c'est quelque chose de très important. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas. Je pense que, par exemple, dans les collèges difficiles, dits difficiles, souvent, c'est quand il y a de bonnes équipes enseignantes très solidaires que ça marche mieux, évidemment. Hein, que les adultes, entre eux, sont très attentifs et ne considèrent pas que s'il y en a un qui a un problème avec sa classe, c'est forcément qu'il est nul. Vous voyez, mais il y a moi, je le dis d'autant plus que je vois bien le monde... Moi, je suis assez récemment dans le monde universitaire. Ça fait une dizaine d'années que je vois dans le monde universitaire. C'est un monde extrêmement narcissique et extrêmement compétitif. Pour ceux d'entre vous qui ont commencé... Mais c'est insupportable. Alors, ceci dit, le monde universitaire, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis, à mon avis, quelques dizaines d'années. Depuis que le monde, au moins depuis le 19e siècle. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement le monde universitaire qui est comme ça. On est dans un monde très narcissique et très compétitif, où les gens en situation 2 sont constamment mis sur la sellette, même dans les couples. Une espèce de compétition narcissique dans les couples, qui parfois était extrêmement dur, hein, de dire, oui, est-ce qu'il n'est pas bon, etc., même vis-à-vis des enfants. Donc là, il y a un travail, hein, extrêmement important à faire. Enfin, moi, je le prends comme un travail de tissage, hein, de quelque chose de nouveau, et qui peut se jouer au niveau des communautés. Hein. Moi, je pense, j'aime beaucoup Charles Taylor, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un philosophe canadien qui est remarquable, qui enfin, on l'a classé dans les communautariens. peu importe. C'est-à-dire qu'au fond, il croit beaucoup au rôtissage dans les communautés de valeurs collectives. Moi, je pense que c'est dans les communautés qu'on retrouvera une espèce de goût du collectif, qui ne soit pas évidemment un collectif autoritariste comme il était dans une société plus hiérarchique, mais qui en même temps puisse retisser des éléments autour de l'autorité, qui ne soit pas une autorité implicite cette autorité, par exemple, d'Internet ou autre. Là. Donc, travailler autour de ces questions-là. Alors, il y a une question très forte, mais ça, c'est votre génération peut-être qui l'abordera. C'est cette question des institutions. Je pense, pour ma part, je pense que les institutions, c'est important. C'est même essentiel. Qu'effectivement, il y a toute une méfiance vis-à-vis des institutions. Puis il y a toutes les années 70-80 qui sont passées par là. Surtout chez les psys, il y a une vision de l'institution, je veux dire, de la violence symbolique de l'institution, etc. Et en même temps, je crois qu'il faut qu'on retrouve quelque chose d'un monde institué, de penser ensemble un monde institué. Parce que l'institution nous dépasse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être uniquement dans quelque chose qu'on porte à bout de bras. Il faut consentir quand même à ce que l'institution soit plus forte que nous, quelque part, même si elle doit être régulée. On voit bien combien les gens, par exemple, parlent de l'institution scolaire. Les parents, souvent, disent parlent de l'institution scolaire comme s'ils parlaient d'un trou à rat. Quand on emploie le terme d'institution scolaire, c'est souvent d'une manière extrêmement péjorative. L'institution n'a rien compris. Je crois qu'il y a quelque chose à retrouver ou à revivifier par rapport aux institutions. Bon, alors c'est peut-être pas maintenant que ça arrivera, mais ces questions-là demandent d'être travaillées. Demandent d'être travaillées aussi dans nos lieux. Je veux dire, quand on faisait des groupes de recherche sur ces questions-là au Bernardin, je pense qu'on essayait de travailler sur ces questions-là. Mais vous aussi, dans vos lieux de réflexion, de travail. Et puis, je crois qu'il y a une position subjective à avoir. Ça, je parlais plutôt du point de vue collectif, du tissage de l'autorité. Mais comment, subjectivement, on va habiter ça? Comment on va... Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus être complètement nul si on est père ou si on est mère. C'est-à-dire qu'un père complètement abusif ou une mère complètement dévorante, elle sera rejetée par ses enfants. Ça sera compliqué, mais on n'est plus dans un monde, au fond, hein, voilà, le père qui vient embastiller son fils, je ne sais plus si c'était le père de Mirabeau hein, qui l'avait fait embastiller. Hein, on n'est plus dans ce monde-là. Nous devons donc travailler à habiter ces positions d'autorité, d'une part, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en étant solidaire avec d'autres pour ne pas être seul, mais aussi en voyant qu'est-ce que ça veut dire habiter subjectivement les choses. Qu'est-ce que ça veut dire faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Je crois qu'il y a une position subjective à habiter, qu'on ne peut pas habiter seul, mais qui est très importante de l'habiter, cette position subjective. C'est vrai que notre époque a plus besoin de témoins. Et même dans des situations très concrètes et très simples, que la situation de parents ou la situation d'éducateurs, hein, il y a besoin de personnes qui témoignent d'une certaine vérité de leur action, d'une certaine vérité de leur manière d'être par rapport aux jeunes, par exemple. Hein. Et c'est absolument nécessaire, parce que vis-à-vis de cette solitude qu'on a beaucoup aujourd'hui, hein, en portant un certain nombre de situations, cette solitude qui est assez forte, on a tendance, du coup, pour se protéger, à faire appel à ce qu'on appelle la langue de bois, c'est-à-dire à faire appel à un discours formaté, très politiquement correct, qui avec lequel on pense se faire aimer, par exemple par les élèves, ou ce que fait par exemple cette conseillère d'éducation qui dit ah oui, qui dois-je croire? Je crois qu'elle est dans un discours dont elle pense qu'elle va pouvoir exister en ménageant la chèvre ou le chou et en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop d'angle et que ça ne soit pas trop difficile pour elle. Je crois qu'on ne peut pas éviter d'avoir une position subjective. Hein, Alors ce que j'appelle avoir une position subjective, c'est s'exposer. S'exposer par rapport à ce qu'on croit, par rapport à ce qui nous semble juste. Ça paraît évident, mais vous le savez peut-être, et vous le verrez en tout cas, c'est pas si évident que ça aujourd'hui. Hein, de s'exposer plus et d'être un peu moins dans un discours formaté ou dans ce qu'on appelle la novlangue maintenant. Hein, je crois que c'est Orwell, hein, c'est Orwell qu'on parle de novlangue. Il y a d'essayer d'avoir un discours où on habite un peu plus ce discours. Je crois que c'est très important. Voilà. Alors ça peut... aider dans les situations de pauvreté. Puis je vais m'arrêter là, parce que je pense que... Oui, si vous voulez poser quelques questions... Alors, c'est... Oui.
Moi, j'avais une question concernant quel est le rôle en fait de la dérision dans l'affaiblissement de l'autorité, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez présent.
Ouais. Moi, je pense. Ah oui, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense. Moi, je trouve ça insupportable quand on dit l'autorité du politique est en train de s'effondrer, alors qu'il y a tout un dispositif médiatique de dérision du politique. Alors, ça marchait du temps de Sarkozy, ça continue avec Hollande. Et puis le suivant, ça sera la même chose. Ça va continuer. Hein, ça va exagérer. Donc tout. Et alors, à mon avis, ça fait partie de ces influences. Hein, ça fait partie de ces influences. Tout un monde, toute une bulle, je dirais, médiatique qui existe. Alors après, qui n'existe pas seulement dans les médias, parce que la dérision, on le voit bien, hein. Ça fonctionne maintenant qu'on voit dans les classes, il y a tout un mode de fonctionnement autour de la dérision qui me paraît effectivement très important et qui est très difficile à nommer parce qu'il se présente comme léger et comme hors de toute sphère d'influence. Alors que c'est des lieux de pouvoir, la dérision. Alors, moi, je pense que c'est un lieu de pouvoir qui a un lieu de pouvoir qui peut être assez violent. Et on peut difficilement, effectivement, y répondre, souvent, parce qu'on ne peut pas répondre sérieusement à quelque chose qui est dans le registre de la dérision. Ce n'est pas facile de passer en position méta, quoi, et de dire, bon, voilà, on va... Donc je crois qu'effectivement, on est dans des... je ne sais pas comment dire. C'est une manière de désamorcer continuellement quelque chose qui pourrait s'amorcer. Hein. Alors, je ne suis pas contre l'humour, mais je pense qu'il y a toute une manière, ça va, de désamorcer continuellement les choses. Qui est une forme de cynisme, hein, qui est une forme de cynisme, de dire au fond qu'il y a une manière de dire au fond que tous les systèmes se valent, hein, et que, qui est pris dans ce système de dérision. Oui.
C'est parce que même le pouvoir se ruine, c'est-à-dire les lois ne s'appliquent pas forcément, ils s'appliquent moins. Du coup, les gens ne croient pas vraiment que les choses qui sont en place ont une réalité. Et du coup, bah, évidemment, les acteurs... C'est pour reprendre votre anecdote, il est évident que si les dispositions légales qui faisaient que le fait d'insulter quelqu'un était respecté... Il est évident qu'il y aurait plus de crainte au fait d'insulter quelqu'un.
Oui, oui. Oui, c'est assez compliqué, au fond. Qu'est-ce qui fait ? Moi, effectivement, je ne vois pas... C'est vrai que c'est un peu manichéen de dire, bon, d'un côté, il y a l'autorité qui est bien, d'autre côté, il y a le pouvoir qui est... Voilà, qui serait moins bien. Je crois que c'est toute une articulation entre autorité, pouvoir et légitimité qui rend chacun de ces notions dépendantes l'une de l'autre. Et quelque part, effectivement, il y a un moment où le pouvoir n'est plus un pouvoir. Le pouvoir lui-même est atteint. Il y a une espèce de dilution de choses. Alors je pense qu'il y a tout un aspect aussi, ce que je n'ai pas abordé, c'est le rapport au langage. Alors on est dans un monde où à la fois le langage est on accorde beaucoup d'importance au langage, hein. C'est bien en philosophie qu'ailleurs, hein. Le langage est devenu quelque chose. Et du coup, on dit au fond que tout est langage, et en même temps tout est désamorcé parce que tout est langage. Et donc au fond, une insulte, ça n'est qu'une insulte. Hein, bon, bah, ça peut faire. Voilà, c'est une manière de parler. Donc il y a un rapport à l'impact de ce qui existe, l'impact du langage. C'est un peu aussi comme on parle beaucoup des bulles aujourd'hui. Et je pense que c'est un terme qui est assez beau. On parle de bulles spéculatives. Mais on l'emploie aussi pour... Voilà, il est dans sa bulle. Et je crois qu'effectivement, il y a dans les réalités... Si on est uniquement dans des effets de langage qui concernent chacun ou chaque communauté... qui a son manière de voir, son système de langage, ses mots, qu'est-ce qui peut être commun ? Il parle comme ça, mais pourquoi il ne parlerait pas comme ça ? Bon, finalement, il ne m'a pas frappé. Il me semble que c'est comme la dépendance, c'est comme l'addiction. L'addiction, il y a un effet dose, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'accoutumance, ça veut dire que il faut augmenter les doses pour avoir le même effet. Hein? On augmente la dose de l'héroïne. Alors je pense qu'avec le langage, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que maintenant, pour qu'on puisse entendre des choses, il faut un peu un effet Trump. Hein, vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un qui devient carrément insultant. C'est-à-dire que le langage est tellement dévalué qu'on prend un seuil supérieur de langage pour avoir un effet similaire. Comme si, au fond, la valuation des choses était en train de s'amenuiser peu à peu. Alors, d'abord vous, derrière, après vous.
Oui.
Alors, votre prénom, est-ce que je ne demande pas à chaque fois? Oui.
Olivier.
Olivier,
oui.
Yasmine. Et Yasmine et
Jean-Benoît.
Jean-Benoît, voilà.
Oui, je voudrais revenir sur une différence lexicale que vous avez abordée, mais sans trop la creuser, j'ai l'impression. Quand est-ce qu'on cesse d'avoir de l'autorité pour devenir justement autoritaire? Est-ce que ce qu'on appelle autoritarisme, c'est pas simplement... Ça ne pourrait pas être de l'autorité qui serait délégitimée en quelque sorte,
ouais.
Ou qui ne serait plus reconnue par celui qui a le statut d'inférieur comme autorité légitime.
Oui, les anglo-saxons, je crois, ont deux termes, autoritarist and authoritative. Alors, authoritative, ça serait une bonne autorité, habitée, pas trop forte, cool en même temps, voilà. Britannique. Et autoritariste, c'est le mec qui abuse. Alors je pense qu'effectivement, comme je disais, dans la vision de Weber, mais c'est celle d'une vision classique, je veux dire, l'autorité, évidemment, si elle devient autoritariste, c'est plus une autorité. C'est-à-dire que l'autorité ne fonctionne que si on y obéit sans avoir recours à la force. Donc à partir du moment où il y a recours à la force, qui est le cas de l'autoritarisme, en fait, une force même... Mec, le parent qui se met à gueuler, ou d'ailleurs ça marche pas longtemps, mais ça, là aussi il faut augmenter la dose à chaque fois. On est dans une autorité effectivement qui n'existe pas, qui n'est pas habitée. Mais le plus souvent, si vous voulez, je pense que les gens, je parle au niveau personnel, hein, mais je pense peut-être les institutions aussi comme ça, oscillent entre deux positions, une position dépressive et une position autoritariste. Ça, c'est assez classique. C'est-à-dire que le parent qui a du mal et qui laisse filer les choses, par exemple, qui a du mal à se positionner subjectivement vis-à-vis d'un jeune et qui a du mal à dire réellement les limites telles qu'il a envie de les fixer, par exemple, et qui du coup laisse filer un temps et qui se reprend par moment parce qu'il craque, parce que voilà, par des moments autoritaristes. Et les deux alternants. C'est rare. Bien sûr, il y a le modèle du père pervers sadique, hein, ou la mère, d'ailleurs, on le voit bien dans d'Hervé Bazin, dans Folcoche. Il y a des parents qui étaient ou qui sont encore comme ça, parfois, qui sont dans un autoritarisme constant. Hein, une espèce de manière de prendre en main, d'une manière très réglée, la vie de l'enfant. Mais le plus souvent, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt l'alternance d'une... difficulté à habiter les choses et de moments de violence. Et là, effectivement, quand la force est là, c'est que l'autorité ne peut pas exister à ce niveau-là. Oui.
Alors, je m'appelle Nicolas. Du coup, j'avais une question à vous poser par rapport, en fait, à l'autorité. C'est un autre sujet, mais est-ce que l'autorité pour vous est susceptible de degré ou pas? Est-ce que l'autorité c'est tout ou rien? On a une autorité ou est-ce qu'on peut avoir plus ou moins d'autorité? Je clarifie un petit peu ma question. Par exemple, si on vous a invité, je suppose c'est parce que vous êtes psychologue, que vous avez un poste universitaire, etc. Donc vous avez quand même une fonction. Ouais. Qui semble quand même vous donner une certaine autorité. Après, peut-être que quand vous arrivez ici, vous n'avez pas une autorité qui est complètement acquise. On va attendre de vous que vous ne disiez pas de bêtises ou ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que... Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas qu'on va vous soupçonner tout de suite de que vous n'êtes pas... J'ai l'impression que quand vous arrivez devant nous, par exemple, vous n'avez pas... On ne va pas a priori considérer que ce que vous allez me dire ne sera pas juste, votre parole ne sera pas mise en doute, a priori, elle ne sera que s'il y a des raisons en fait assez évidentes de peut-être de la mettre en doute.
Monsieur.
Suppose que peut-être que vous n'avez pas une autorité comme ça, établie d'un seul bloc et indiscutable, mais que vous aurez peut-être une forme d'autorité, on va dire, qui ne serait pas une autorité totale, tout simplement, juste un certain degré d'autorité. Est-ce que pour vous, ça a un sens ou pas de parler de degré d'autorité, ou au contraire, une fois qu'on a soit on a l'autorité, soit on ne l'a pas, dans ce cas-là, en fait...
Mais c'est vrai qu'on est volontairement caricatural quand on parle de ce domaine-là. Il y a quand même... Ce que vous évoquez, c'est l'autorité de la fonction. C'est-à-dire que... Voilà, la fonction que vous avez, universitaire ou autre, et puis on a lu tel ou tel truc que vous avez écrit, forcément, ça donne, a priori, une forme d'autorité. Ça peut donner, en tout cas, une forme d'autorité. Mais après, il faut l'habiter, cette forme-là. C'est-à-dire que... et là, ça dépend des époques. C'est vrai qu'à la limite, on peut imaginer certaines époques où un universitaire complètement soporifique, de toute façon, les gens l'écouteraient. Que maintenant il faut à la fois la fonction ou la célébrité ou que sais-je peut donner une autorité et en même temps il y a le côté de la manière dont vous-même vous faites autorité. Alors ça dépend du charisme, mais ça dépend pas seulement du charisme effectivement, on pourrait nuancer les choses. Ça dépend aussi ce que je disais en fin de mon intervention, de dire au fond ça dépend aussi de la manière dont vous habitez votre discours. Qu'est-ce qui fait que vous faites autorité ? Une espèce de justesse dans le discours, de manière de donner une forme de vérité, en tout cas d'y adhérer, etc., qui font qu'après, on peut faire plus l'autorité. Mais autorité, moi, je crois que simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une période complexe. C'est-à-dire qu'on a toujours des autorités qui sont liées à nos fonctions. Quand vous êtes enseignant, quand même, vous n'arrivez pas à chaque fois dans votre classe en disant « il va falloir que je dompte les lions ». Il y a toujours une autorité de la fonction qui tient à la dimension rationnelle légale, mais la dimension aussi quand même de la tradition qui existe encore un peu, qui tient à plein de choses. Le dispositif de la classe lui-même est un dispositif tout à fait étonnant qu'on veut supprimer en partie, mais qui date depuis des dizaines de siècles. Et d'une manière étonnante, pourquoi la classe ça fonctionne ? Pourquoi un adulte devant 20 ou 30 élèves ou 10 élèves, pourquoi il y a quelque chose qui se joue là, qui est tout à fait étonnant au niveau de l'autorité. Donc ça, c'est dans le dispositif lui-même qu'il y a quelque chose qui est généré. Parce que c'est un dispositif intéressant parce qu'il y a à la fois une interaction des jeunes et une interaction avec l'adulte. Donc tout ça, ça donne des degrés. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la dimension subjective personnelle est plus mise en avant. C'est-à-dire qu'on a plus... Alors évidemment, ici, par exemple, c'est plus facile d'une certaine manière. Parce que, bon, à la limite, si vous invitez quelqu'un, c'est que vous avez envie de l'écouter, etc. Dans d'autres situations plus informelles, comme la parentalité, c'est plus complexe maintenant. Parce qu'on est dans un registre de l'intime et de l'informel, et que la dimension instituée est beaucoup moins présente. Que du coup... Alors que la famille, c'est une institution, enfin, on peut passer des heures sur la famille comme institution, mais de dire qu'au fond, cette dimension instituée est moins présente, donc il y a la dimension narcissique qui est beaucoup plus forte. Mais quel que soit le narcissisme des parents, ce n'est pas une question de qualité ou de défaut personnel, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, on est plus amené à habiter cette manière-là et à retisser un certain nombre de choses, parce que l'institution elle-même est moins présente. Mais c'est très complexe, l'autorité. C'est très complexe. Vous voyez, par exemple, un petit exemple, dans les milieux professionnels maintenant. Moi, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, il y a une quarantaine d'années, on vous voyait, les gens. Surtout quand on débutait, les petits jeunes, on voyait. Puis moi, ça ne me posait aucun problème. C'est-à-dire qu'on vous voyait le chef de service. À l'hôpital, par exemple, je travaillais à l'hôpital au début de ma vie professionnelle. Très clair qu'il y avait une hiérarchie qui se manifestait dans le mouvement et qui correspondait à un type d'autorité pyramidale. Voilà, chef de service à l'hosto, il y a 40 ans, c'était quelque chose. Bon, maintenant on tutoie beaucoup. Tutoie, à l'université, tout le monde se tutoie. Bon, alors on dit officiellement on est des pairs, mais dans la réalité, derrière ce tutoiement général, au fond, tout le monde n'est pas si à l'aise que ça parce qu'il y a d'autres manières de manifester des choses qui sont beaucoup plus complexes et qui fait qu'on a plus de mal à, quand je dis à faire autorité, pas seulement quand on a une position, mais faire autorité même, ne serait-ce que quand on a à se défendre. Moi je préfère vous voyez mes chefs, parce que quand j'ai à dire à mon chef que je suis pas d'accord, je suis plus à l'aise si je le vous vois. Il dit, bah, écoutez, quand on est dans un tutoiement très... Là, on peut dire que ça ne veut rien dire, le tutoiement, c'est un truc culturel. Hein. Par exemple, les Anglais, ils tutoient leurs thérapeutes. C'est... Parfois, où j'ai eu des Anglais, comme... alors évidemment, le you là-bas, mais il y a une plus grande proximité, donc c'est en partie culturel. Mais en même temps, quand même, la manière dont ces choses-là sont habitées dans les collectivités sont toujours très significatives. C'est-à-dire que... La question que j'ai beaucoup évoquée, c'est celle du dénivellement. Il y a moins de dénivellement entre parents et enfants. Et ça, on considère en général que c'est plutôt bien qu'on puisse être proche de ses enfants, etc. Mais en même temps, du coup, il faut faire attention à cet excès de non-dénivellement qui fait qu'on a du mal à se positionner quand il s'agit de s'extraire et de passer en méta, hein, de dire, bah, écoute, là... Moins on est dénivelé, plus c'est difficile hein, de manifester une situation d'autorité quand c'est nécessaire. Alors aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus complexe. Alors à la limite, ça, c'est pas très gênant parce que ça suppose un certain apprentissage d'arriver à se mettre un peu en recul quand on est parent, etc. Puis être à deux, parfois ça aide. Quand on est seul, c'est plus dur. Mais c'est plus difficile quand on n'est pas soutenu. En revanche, quand on a un conjoint qui vous disqualifie, ou quand vous avez des collègues qui ne vous soutiennent pas, etc. Là, ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça, mon avis, c'est les vrais problèmes de l'autorité aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas de vraie solidarité, de solidarité bien pensée. Hein. Il ne s'agit pas de ne pas dénoncer un collègue pédophile. Hein. De solidarité réelle entre les personnes qui sont dans ces situations-là. Ça, on ne se rend pas compte... À quel point aujourd'hui on est dans un regard compétitif entre les pairs, PIRS, hein, dans cette vision très compétitive où chacun. On s'en rend d'autant plus compte qu'on est habitué, maintenant on est habitué à porter les choses soi-même. On est très habitué. Le problème, c'est les plus fragiles. C'est quand ou dans les moments de votre vie où vous serez plus fragile. Là, vous le sentez plus. Pourquoi beaucoup de gens ont l'impression d'être harcelés maintenant? Je ne pense pas qu'il y ait plus de harcèlement moral qu'il y a. C'est une nouvelle invention, hein. C'est une invention contemporaine, le harcèlement moral. Avant ça n'existait pas. Hein. Parce que je pense les gens portent beaucoup par eux-mêmes beaucoup plus de choses, donc sont plus sensibles à l'agression, notamment dans le milieu du travail, du couple. Le nombre de gens qui me disent, par exemple, ah ben mon conjoint est un pervers narcissique. Alors on peut dire, mais pourquoi il y a autant de pervers narcissiques? Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez à peu près ce que ça veut dire, pervers narcissique. Mon conjoint, c'est un grand manipulateur, c'est un grand méchant qui cherche à me rendre folle ou me rendre fou. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent ça aujourd'hui? Parce qu'on est dans un truc tellement personnel, on porte beaucoup les choses par soi-même, que l'autre est souvent sous les auspices de celui qui va me harceler, m'intruser, etc. Donc il y a une grande peur hein, de... C'est lié à la manière de voir les choses aujourd'hui, quoi.
Merci
voilà.
Beaucoup.
Ouais.
Si on a des questions à poser, vous pouvez tout à fait les poser.